Chers amis, quand on voit le monde dans lequel on vit, on aurait de quoi désespérer. Car de fait, il semble que tout se dérobe sous nos pieds. Ce qui relevait du bon sens est désormais mis en cause. Les notions de bien et de mal sont de plus en plus inversées. Et l'humanité semble allègrement courir vers l'abîme. Le psalmiste pose ce constat désolé. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Et de fait, il semble bien que les fondations de notre monde soient ruinées. Et elles sont ruinées parce que nous avons rejeté la pierre angulaire qui est le Christ. Nous avons rejeté la paternité de Dieu et nous voilà orphelins, incapables de transcendance et incapables de nous aimer comme des frères. Et la violence, comme un tsunami dévastateur, semble tout emporter. Et Dieu permet cela. Devons-nous nous en scandaliser? Nous devrions plutôt nous scandaliser de notre péché, de notre impiété, cause de tant de maux. Or, au lieu de nous repentir et d'implorer collectivement la miséricorde de Dieu, ce qui nous vaudrait son secours, nous accusons les autres. Elles ont bon dos, les soi-disant ingérences étrangères, pour expliquer la ruine de nos nations. Si nous étions fidèles à Dieu et si nous recherchions la justice dans tout ce que nous faisons, nous n'en serions pas là. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît ». Autrement dit, même la paix et la concorde, même la possibilité d'une vie décente matériellement, tout cela nous serait donné si nous recherchions le royaume des cieux et sa justice en premier. Or, nous faisons le contraire. Par exemple, nous peaufinons des lois iniques pour légaliser le meurtre. Lois qui sont autant de portes ouvertes aux démons. Cette vérité de la malédiction qui atteint ceux qui abandonnent Dieu, Israël l'a apprise à ses dépens au cours des siècles, comme on le voit dans l'Ancien Testament. En effet, quand le peuple s'éloignait de Dieu pour se prosterner devant les idoles, alors les épreuves nationales arrivaient. La terre d'Israël était envahie par les peuples alentours. Le peuple lui-même était emmené en exil, sous le joug des potentats étrangers. Mais quand, plongé dans la fournaise de l'épreuve, il revenait à Dieu, se repentait de l'avoir abandonné, criait vers lui afin qu'il le secoure, eh bien Dieu, dans sa miséricorde, l'exauçait en lui portant secours. Dieu permettait donc les épreuves nationales pour une purification. Il laissait le peuple aller à ses erreurs, à son idolâtrie, pour qu'il apprenne dans sa chair, par la souffrance et la désolation qui s'ensuivaient, les conséquences de sa faute. Ce n'était donc pas par méchanceté ou indifférence que Dieu permettait toutes ces épreuves, mais en vue du salut de son peuple bien-aimé. Eh bien, n'est-ce pas aujourd'hui la même pédagogie divine qui est à l'œuvre? Je vous avais déjà cité sainte Catherine de Sienne qui répondait ceci à ceux qui se révoltaient de toutes les épreuves qui leur arrivaient. « Tout procède de l'amour. Tout est ordonné au salut de l'homme. Dieu ne fait rien que dans ce but. » Eh bien, ce qui est valable pour les hommes est aussi valable pour les nations. À voir nos pays dégringolés, soumis à toutes sortes d'épreuves, dont celle d'avoir des dirigeants mauvais n'est pas la moindre, nous pourrions penser que tout est fini, que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Il aime tous les peuples. Il veut le bien et la paix pour tous les peuples. Cependant, il ne contraint pas notre volonté, et donc il nous laisse aller sur le chemin que nous avons choisi, afin que nous expérimentions la désolation salutaire, conséquence de notre éloignement loin de sa face. Il nous attend comme il a attendu le fils prodigue parti loin de la maison paternelle, dilapidant l'héritage reçu, soumis à la misère, jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même, se rende compte du bien perdu et revienne à son père dans le repentir. Oui, Dieu attend patiemment notre retour et il permet toutes les épreuves que nous traversons au niveau national et mondial comme une purification en vue de notre repentir et de notre salut. Quand nous aurons touché le fond de la misère, il n'y aura plus que Dieu et alors nous nous tournerons à nouveau vers lui dans l'humilité et le Seigneur préparera alors d'une manière inimaginable le relèvement spirituel de nos nations et de notre monde. Ne croyons pas que le Seigneur est impuissant. À travers tout ce que nous vivons, il œuvre déjà à notre retour. Soyons convaincus que sa providence ne nous abandonnera pas. Il fera tout concourir au bien. Seulement pour cela, il attend nos cœurs brisés et nos esprits humiliés. Il attend nos larmes et notre prière. Il attend un sincère retour vers lui. Son bras n'est pas trop court pour sauver si nous le prions. Les apôtres pensaient que tout était perdu le vendredi saint. Mais Dieu préparait dans le secret l'immense joie de Pâques et une fécondité extraordinaire. La vénérable Marthe Robin n'avait-elle pas prophétisé cela? « La France tombera bas, très bas, disait-elle, plus bas que les autres nations à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière. Alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. » Mes amis, espérons contre toute espérance. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais, même si nous devons passer par de grandes épreuves purificatrices. C'est toujours le salut qu'il a en vue pour nous.